retenu pour aujourd'hui étaient les récits évangéliques de la résurrection. Nous allons d'abord parcourir les textes évangéliques eux-mêmes, les comparer un peu, et puis ensuite, je vous donnerai quelques mots de commentaires. Les quatre évangiles, les trois synoptiques et Saint Jean, nous rapportent un peu différemment, mais cependant, vous le verrez, d'une façon assez convergente. Les récits de la résurrection du Seigneur. Dans les quatre évangiles, nous avons une suite d'événements que l'on peut résumer ainsi. Tout d'abord, la découverte du tombeau vide par les saintes femmes, et puis ensuite par Pierre et Jean. Ensuite, des apparitions du Seigneur qui ont un caractère, si je puis dire, plus privé, enfin des personnes particulières, dans l'évangile de saint Matthieu, apparition de Jésus aux femmes. Dans saint Marc, apparition à Madeleine et aux disciples d'Emmaüs. Dans Luc, apparition aux disciples d'Emmaüs. Et dans saint Jean, apparition à Madeleine. Puis ensuite, les apparitions aux onze, au collège apostolique, qui se situe en Galilée seulement dans Matthieu et Marc, en Judée chez Luc, et en Judée puis en Galilée chez Jean. Donc nous pouvons dire que la suite des épisodes, tels que l'Évangile nous les rapporte, peuvent se décrire ainsi. Il y a d'abord une apparition aux saintes femmes, puis, excusez-moi, pas une apparition, mais la découverte du tombeau vide fait par les saintes femmes, avec l'apparition d'un ange qui leur annonce la résurrection. Ensuite, découverte du tombeau vide aussi par Pierre dans Luc et Pierre et Jean dans saint Jean. Puis viennent les apparitions du Seigneur ressuscité lui-même, apparition aux femmes, essentiellement à Madeleine, puis aux disciples d'Emmaüs. Et enfin, les apparitions aux onze. Les apparitions dont certaines ont eu lieu en Judée et apparitions aussi en Galilée. Et le tout étant clôturé par l'ascension en Judée, évidemment. Pour ce qui est des récits d'apparition aux saintes femmes, dans saint Matthieu, les femmes qui sont mises en scène sont Marie-Madeleine et l'autre Marie. Dans saint Marc, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, qui est donc l'autre Marie, et Marie, mère de Jacques, il s'agit, selon toute vraisemblance, de saint Jacques le mineur, apôtre. Vous savez qu'il y a trois personnages du nom de saint Jacques d'après la tradition orthodoxe. Il y a saint Jacques le majeur, frère de Jean, fils de Zébédée, saint Jacques le mineur, également apôtre, et qui serait fils par conséquent de cette Marie, et frère d'un certain Joseph, et puis saint Jacques, frère du Seigneur, qui serait fils d'un premier mariage de Joseph. La tradition occidentale, elle, a fusionné saint Jacques le mineur et saint Jacques, frère du Seigneur. Ce saint Jacques, frère du Seigneur, a été le premier évêque de Jérusalem. Mais ici, il s'agit donc de Marie, mère de Jacques, le mineur, apôtre. Et puis Salomé qui est la mère de Jacques et Jean, deux fils de Zébédée. Dans Luc, il est question de Marie-Madeleine, encore de Marie, mère de Jacques, de Jeanne, qui femme de l'ancien intendant d'Hérode, et d'autres femmes. Dans Jean, Jean ne met en scène que Marie-Madeleine. Donc, il y a une certaine diversité dans la manière de raconter les faits, ce qui n'a rien d'étonnant, et on le retrouve à bien des reprises dans les évangiles qui font écho de traditions diverses, mais qui relatent les mêmes faits. Il y a une convergence absolue pour mentionner Marie-Madeleine. Dans Matthieu, le récit évoque la descente même de l'ange du Seigneur, accompagné d'un roulement de terre. L'ange roule la pierre, s'assied dessus. Il vêtu de vêtements blancs marquant son origine céleste, son appartenance au monde de la résurrection. Et l'ange annonce donc la résurrection et demande aux saintes femmes d'aller l'annoncer aux disciples et de leur faire part des apparitions qui auront lieu en Galilée. Et les saintes femmes ajoutent une foi immédiate à cette annonce de l'ange et vont porter la nouvelle aux disciples. Et 11. Dans saint Marc, la descente de l'ange ne nous est pas racontée comme telle, mais les saintes femmes voient l'ange auprès du tombeau. Le texte de l'annonce de l'ange, je vous le dirai tout à l'heure, est parallèle. Il invite les saintes femmes à annoncer aux disciples les apparitions qui vont avoir lieu en Galilée. Mais Marc insiste davantage sur le bouleversement des saintes femmes. Et elle ne dit rien à personne, nous dit-il, ce qui ne veut pas dire peut-être qu'elles n'ont pas transmis le message aux apôtres, aux 11, mais elles n'ont pas répandu la nouvelle dans le peuple. Le récit de Luc est parallèle, mais à l'apparition de l'ange aux saintes femmes auprès du tombeau vide, succède la venue de Pierre au tombeau. Et Pierre constate que le tombeau est vide. Enfin, dans saint Jean, c'est Marie-Madeleine seule qui est mentionnée, qui voit le tombeau vide et qui court prévenir Pierre et Jean. Pierre et Jean viennent au tombeau, voient le tombeau vide, nous verrons l'épisode tout à l'heure, et ils reviennent chez eux. Donc voici comment se passe le premier épisode dans ces récits de la résurrection, selon les différents évangélistes, voyez-vous, récit concordant pour l'essentiel, mais avec insistance, alors partout, sur le rôle de Marie-Madeleine. Venons-en au texte même. Voici le récit dans saint Matthieu. Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, Marie de Magdala et l'autre Marie, nous avons vu de qui il s'agissait, vinrent visiter le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair et sa robe était blanche comme neige. Donc cette apparition de l'ange est par elle-même une théophanie, n'est-ce pas? Et son appartenance à ce monde de la résurrection est signifiée par cette lumière, par sa robe blanche. À sa vue, les gardes tressaillirent d'effroi et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Ne craignez point, vous, je sais bien que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait et allez vite dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Quittant le tombeau, tout émue et pleine de joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Dans saint Marc, voici le récit du même épisode. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller oindre le corps. Dans le texte de saint Matthieu, il n'est pas question de cette onction. Elle venait simplement visiter le tombeau. Ici, il précise que c'est avec l'intention de compléter l'onction du corps avec des aromates. Et le grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil s'étant levé. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre hors de la porte du tombeau? Et ayant levé les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée de côté, or elle était fort grande. Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de stupeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas, c'est Jésus le Nazarénien que vous cherchez, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici, voici le lieu où on l'avait mis. » Donc de part et d'autre, n'est-ce pas, même annonce de la résurrection par l'ange. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes, et elles ne dirent rien à personne. Dans ce texte de saint Marc, dans le récit de saint Marc, il est possible que primitivement, le récit de la résurrection s'arrêtait là. L'évangile devait avoir une conclusion qui a disparu et qui a été remplacée par un texte plus long, que je vous lirai tout à l'heure, qui résume les données communes de la catéchèse relatives aux apparitions du Christ ressuscité, mais tous les exégètes s'accordent, et le style du récit le montre bien, que ce texte est sans doute un peu postérieur et a dû remplacer une autre finale de saint Marc. Nous y viendrons tout à l'heure. Mais il n'empêche que de toute manière, le récit actuel de saint Marc est canonique et inspiré, et que cette question d'authenticité n'a aucune importance quant au crédit que l'on peut apporter au récit lui-même. Mais je vous signale simplement le fait que le texte primitif de saint Marc s'arrête ici, n'est-ce pas? Les femmes s'enfuient du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes, et elles ne disent rien à personne car elles avaient peur. Dans le texte de saint Luc, dans l'évangile de saint Luc, voici le récit du tombeau vide. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, elles allèrent à la tombe portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée devant le tombeau, mais étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il advint, comme elles en demeuraient perplexes, que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies d'effroi, elles tenaient leur visage incliné vers le sol et ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se rappelèrent ces paroles. Ensuite, elle rapporte tout cela au 11. Oui, et ici, l'évangile de Saint-Luc ne nomme pas les saintes femmes au début du récit, mais à la fin. À leur retour du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie la Magdaléenne, Jeanne et Marie, mère de Jacques, les autres femmes qui étaient avec elles, le dirent aussi aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent du radotage et ils ne les crurent pas. Les apôtres ne les croient pas au premier abord. Donc, nous voyons ici qu'au fond, c'est tout le groupe des saintes femmes qui se trouvait présente lors de cette découverte du tombeau vide. Mais Marie de Magdala a un rôle privilégié dans ce groupe des saintes femmes, et c'est elle qui est toujours nommée par chacun des évangélistes, et saint Jean, dans le texte que nous allons voir tout de suite, la nomme seule. Marie de Magdala, là encore, il y a une petite divergence entre la tradition commune en Orient et la tradition occidentale, puisque pour la tradition orientale et orthodoxe, Marie de Magdala est distincte de la pécheresse qui avait répandu le parfum sur les pieds de Jésus. Marie de Magdala est la sœur de Lazare, c'est une malade qui avait été guérie par le Christ d'une possession démoniaque, mais ce n'est pas une pécheresse. À tel point d'ailleurs que vous savez que dans un des éotinons du dimanche, je ne sais plus celui de quel ton, je n'ai pas le texte sous la main, l'apparition à Madeleine est formulée en ces termes: tu es apparu à la Vierge.
C'est le sixième ton,
ça, tu es apparu à la Vierge. Et la Vierge n'est pas du tout comme un occidental pourrait l'interpréter, n'est-ce pas, la Vierge, la Mère de Dieu, mais c'est Marie de Magdala qui est ainsi désignée dans l'Évangile. Et c'est la tradition occidentale qui a identifié alors Marie de Magdala avec la pécheresse convertie. Mais cette tradition est purement occidentale par conséquent. Dans l'évangile de saint Jean, voici le récit de l'apparition, de la découverte du tombeau vide. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre. Et elle aperçut la pierre enlevée du tombeau. Elle court à l'heure et vient trouver Simon Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Et le récit donc de l'apparition à Madeleine, dans saint Jean, introduit la venue de Pierre et Jean au tombeau. C'est venue de Pierre. L'évangile de Luc mentionne une venue de Pierre au tombeau. Voici le texte de Luc, qui est extrêmement, extrêmement sobre. Les infâmes annoncent aux apôtres que le tombeau est vide, et Luc poursuit. Pierre, cependant, partit et courut au tombeau. Mais, se penchant, il ne voit que des linges. Il s'en alla chez lui, tout surpris de ce qui était arrivé. Et notez bien qu'ici, on mentionne seulement pour Pierre la surprise. Il n'est pas dit « il crut ». Dans Saint Jean, voici le récit. Marie les avertit. Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, Jean, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre, pourtant il n'entra pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre qui le suivait. Il entra dans le tombeau, il voit les linges gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet, il ne savait pas encore que d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. Le texte donc est très, très subtil. Nous voyons Jean arriver le premier, plus rapide que Pierre arriver le premier au tombeau, mais en même temps, avec une sorte de déférence, laisser Pierre entrer le premier dans le tombeau. Mais ensuite, le récit nous dit à propos de Jean, il vit et il crut, et de Pierre, il n'est pas question de foi de Pierre à ce moment-là. Donc il y a une sorte de dialectique très subtile, ça, entre l'attitude des deux disciples. On voit l'empressement de Pierre, n'est-ce pas, et Pierre était certainement le premier parmi les apôtres, et Jean, à son égard, une déférence qui fait qu'il le laisse passer, entrer dans le tombeau, mais on sent en même temps que la foi de Jean est beaucoup plus éveillée, beaucoup plus jaillissante tout de suite que celle de Pierre. Donc voici le premier épisode de la résurrection, le tombeau vide. Tombeau vide découvert d'abord par les saintes femmes, puis par Pierre et Jean. Les exégètes contemporains, surtout protestants et même catholiques, en général, mettent cet épisode en doute, à cause de toute la part de merveilleux qu'il contient, et surtout ses apparitions angéliques. Il est sûr que si on met en doute l'historicité des épisodes à cause du merveilleux qu'ils contiennent, on peut aussi douter du fait même de la résurrection, bien entendu. Et d'autre part, il n'y a aucune raison objective, à mon avis, de douter de cette présence, cette manifestation angélique. La seule raison, c'est que l'on veut rendre le texte plus crédible à des exégètes indépendants sont portés, évidemment, à en nier l'historicité à cause de cette part de merveilleux. Mais, à ce moment-là, on peut aussi bien nier toute apparition angélique dans les Écritures. Et en réalité, les textes sont formels, nous n'avons qu'à les prendre tels qu'ils sont. Il n'y a pas lieu, à mon sens, de voir dans cette apparition angélique un simple procédé littéraire pour faire passer l'annonce de la résurrection. Je crois que l'historicité de cette apparition angélique me paraît tout à fait garantie par le texte lui-même tel qu'il est. Nous ne pouvons que le prendre tel que les évangélistes nous le donnent. Tout le reste n'est que simple supposition humaine et qui n'ont pas de raison d'être ici. Après cette découverte du tombeau vide, il faut souligner l'importance des deux moments de cette découverte. Il y a la découverte du tombeau vide et le message angélique. La découverte du tombeau vide à elle seule ne suffirait pas, n'est-ce pas ? De la découverte du tombeau vide, on pourrait déduire la résurrection, mais ce ne serait qu'une déduction humaine. Et il y a l'annonce par les anges qui est extrêmement importante, parce que c'est elle qui donne sa dimension de foi, précisément, à l'événement. Ce n'est pas une simple supposition humaine, une simple déduction humaine à partir du tombeau vide, mais le sens du tombeau vide est donné par les anges, par une parole de Dieu transmise par les anges qui sont vraiment là les interprètes divins de l'événement. Et ceci est extrêmement important, je crois, pour fonder la foi dans la résurrection, à partir de cet épisode du tombeau vide. Mais ensuite, alors, cette annonce angélique va être complétée par les apparitions, les premières apparitions du Christ. Apparition de Jésus, là encore, d'abord aux saintes femmes. Cette priorité, n'est-ce pas, accordée aux saintes femmes, reparaît ici, puisque c'est aux saintes femmes, d'abord, que Jésus apparaît. Et ceci est très net, au moins dans trois des évangélistes, n'est-ce pas, dans saint Matthieu, dans saint Marc et dans saint Jean. Dans l'évangile de saint Luc, la première apparition mentionnée est celle aux disciples d'Emmaüs. Voici le récit de saint Matthieu. Donc les saintes femmes viennent de porter la nouvelle aux apôtres. Mais elles reviennent sans doute au tombeau, enfin ce n'est pas mentionné, mais le texte nous dit simplement « Et voici que Jésus vint à leur rencontre. Je vous salue, dit-il. » Et elles de s'approcher et d'étreindre ses pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit « Ne craignez point, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là ils me verront. » Mes frères, ce sont les onze, c'est ça. Dans saint Marc, mais alors comme je vous le disais, ce récit, cette finale de saint Marc n'est probablement pas primitive, mais ceci n'a aucune importance, c'est un texte inspiré et auquel nous pouvons faire entièrement crédit, comme s'il était du premier jet de saint Marc. Mais on voit bien que ce récit commence comme un nouveau récit. Ne la crurent pas. C'est tout ce que nous donne ce texte de saint Marc sur l'apparition à Madeleine. Mais alors, dans saint Jean, le récit est beaucoup plus étoffé et est un des plus beaux textes que nous ayons parmi ces évangiles de la résurrection. C'est après l'épisode donc de la venue de saint de Pierre et Jean au tombeau. Marie se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau, et elle vit deux anges en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Vous savez que cette position des deux anges, à la tête et au pied du Christ, du tombeau, est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a un prêtre et un diacre pour la lecture de l'évangile de la résurrection à leur trosse, au matin du dimanche, le prêtre se tient à droite de l'autel pour lire l'évangile, et le diacre se place en face, de l'autre côté de l'autel. La lecture ne se fait pas au milieu de l'autel, ni tournée vers le peuple, soit dit devant. Justement parce que le prêtre et le diacre, là, sont de chaque côté de l'autel, comme les deux anges au tombeau. Ceux-ci lui disent, « Femme, pour... » Attendez. Oui. Ceux-ci lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourna, et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce changement d'apparence du Christ en commentant les textes ensemble. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je l'enlèverai. » Jésus lui dit, « Marie. » Se retournant, elle lui dit en hébreu, « Rabouni, ce qui veut dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Nous avions vu dans l'évangile dans le texte que je vous ai lu précédemment, là, qui était l'apparition à Madeleine dans saint Matthieu et dans... C'est bon, je crois que c'est dans saint Matthieu. Donc, je vérifie. Oui, les femmes se prosternaient, n'est-ce pas, et d'étreindre ses pieds. Et ici, c'est Madeleine seule qui est en scène. Madeleine aussi veut étreindre les pieds de Jésus, qui lui dit ne me touche pas. Mais nous verrons tout à l'heure pourquoi. Pourquoi cette étude du Christ. Donc nous avons là, dans trois des évangélistes, une apparition, une première apparition à Madeleine seule dans Jean, mais aussi Madeleine et les saintes femmes dans Matthieu et Marc. Les évangiles nous donnent plutôt une sorte d'icône, n'est-ce pas, des événements qui suivent la résurrection plutôt qu'un récit circonstancié où se trouvent tous les détails. Le récit est transmis par des traditions diverses, où il n'y a pas à s'étonner de différences minimes, mais où on ne va pas chercher le pourquoi et vouloir les harmoniser humainement à tout prix. Les textes nous sont donnés sous cette forme et nous pouvons les prendre que sous cette forme, sans chercher à les harmoniser à tout prix. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Église a toujours utilisé les textes évangéliques tels quels, sans chercher à faire une sorte de concordance. Il y a bien eu aux origines des diathésarons, des quatre évangiles en un seul, mais cette forme de présentation des évangiles n'a pas été finalement retenue par l'Église, qui a toujours, au contraire, préféré nous livrer les textes tels qu'ils sont, nous les faisant lire au cours de tous les offices de la Semaine Sainte et du jour de Pâques. Pour la Passion, c'est la même chose, n'est-ce pas, les faisant lire à la suite, côte à côte, mais sans chercher à les harmoniser, car cette tentative d'harmonisation serait une sorte d'intrusion humaine dans des textes que nous devons simplement recevoir comme l'Esprit-Saint les a inspirés. Et nous voyons bien la convergence très profonde de ces textes, et il est facile de voir comment ils s'accordent tout à fait globalement. Après cette apparition, donc, aux saintes femmes et à Madeleine, se situe, dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc, l'apparition aux disciples d'Emmaüs. Apparition qui est très rapidement évoquée dans saint Marc, puisqu'il s'agit plutôt d'un résumé des événements. Saint Marc nous dit simplement, « Après cela, il se manifesta sous d'autres traits à deux d'entre eux qui étaient en chemin et s'en allaient à la campagne. Et cela revint l'annoncer aux autres, mais on ne les crut pas non plus. » L'épisode, au contraire, est raconté tout au long, alors, par Saint-Luc. Et là encore, c'est un texte d'une très grande densité spirituelle, comme l'apparition à Madeleine que je vous disais à l'instant dans Saint-Jean. Voici le récit, donc, des disciples d'Emmaüs, vous le connaissez bien, mais il est toujours bon de le relire. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades. En fait, une partie des manuscrits dit 160 stades. C'est probablement une modification introduite dans le texte par Origène, qui avait essayé d'identifier sur place, en Palestine, les lieux où s'étaient passés les événements. Et à l'époque d'Origène, on ne connaissait comme localité de Palestine portant le nom d'Emmaüs que la localité d'Amwas, près de la Troune actuellement, donc pas très loin de Tel Aviv, qui effectivement est à 160 stades de Jérusalem. Et Origène a, semble-t-il, corrigé le texte, le chiffre 60 qui devait être primitif, pour faire concorder le texte évangélique avec cette donnée géographique. Mais l'identification d'Emmaüs reste très, très douteuse. Il est plus vraisemblable qu'il s'agit d'un autre Emmaüs, plus proche de Jérusalem. Mais il n'y a pas d'unanimité à ce sujet. Et en tout cas, la tradition qui place Emmaüs, donc près du village actuel de Latrou, n'est pas très très loin de Tel Aviv, n'est probablement pas primitive, bien qu'il y ait à cet endroit une basilique, les ruines d'une basilique chrétienne importante du IIIe siècle, ce qui montre qu'il y a tout de même eu, dès le IIIe siècle, une attention particulière portée sur ce site. Mais la chose a relativement peu d'importance, simplement cette localisation n'est pas certaine. Et il n'y a pas d'ailleurs de grand sanctuaire chrétien sur ce site d'Emmaüs, comme sur les sites essentiels des évangiles, des lieux évangéliques. Ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Et il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approcha et il faisait route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Nous retrouvons là un trait analogue à ce que nous avons rencontré dans l'apparition à Madeleine. Nous en verrons le sens tout à l'heure. Il leur dit, « Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ? Et ils s'arrêtèrent, le visage sombre. Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit : Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci. Quoi donc ? Leur dit-il. Ils lui dirent : Ce qui concerne Jésus le Nazarénien, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiés. S'étant rendues le grand matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, « Ô cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? » Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Nous trouvons ici, sur les paroles du Christ lui-même, ce que déjà les anges avaient mentionné, n'est-ce pas, cette annonce de la résurrection, mais liée toujours au rappel aussi des annonces que le Christ avait faites, des annonces contenues dans les Écritures, la résurrection précédée de la croix, le salut, au fond, par la croix et la résurrection, qui est l'essentiel, l'essence même du message évangélique. La victoire messianique du Christ, n'est-ce pas, s'affirmant dans la résurrection, mais à travers la mort. On est là au cœur même du message évangélique. Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta donc dans l'Écriture, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Quand ils furent près du village où ils se rendaient, il fit semblant d'aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux. Et il advint, comme il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le lendemain. Leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin ?» quand il nous expliquait les Écritures. À cette heure même, ils partirent et s'en retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les onze et leurs compagnons qui dirent, « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment il l'avait reconnu à la fraction du pain. Donc voici les récits, les premiers récits des apparitions dans les quatre évangiles. Viennent ensuite les apparitions aux onze apparitions, donc aux apôtres comme tels, au collège apostolique comme tel. Dans saint Matthieu, il n'est question que d'apparitions en Galilée. D'ailleurs, les saintes femmes avaient reçu des anges et du Christ lui-même quand il avait apparu, mission d'annoncer aux apôtres qu'ils devaient se rendre en Galilée et que c'est là qu'ils verraient le Christ. Et nous reviendrons là-dessus tout à l'heure sur la raison d'être de cette manifestation du Christ en Galilée spécialement. Dans l'évangile de saint Matthieu, nous lisons ceci. Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent, d'aucuns cependant doutèrent. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. » Dans l'évangile de saint Matthieu, ce récit d'apparition en Galilée est précédé d'un paragraphe que j'ai omis ici, que j'ai omis en vous le lisant, un paragraphe qui n'a pas d'équivalent dans les autres évangiles, dans les trois autres évangiles. C'est le texte qui fait allusion à la supercherie des Juifs des chefs des Juifs, et je vous lis maintenant ce texte. Tandis qu'elles s'en allaient, les saintes femmes, après l'apparition du Christ, tandis qu'elles s'en allaient, voici que quelques hommes de la garde vinrent en ville rapporter au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci tinrent une réunion avec les anciens, et après avoir délibéré, ils donnèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Vous direz ceci, ces disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé tandis que nous dormions. Que si l'affaire vient aux oreilles du gouverneur, nous chargeons de l'amadouer et de vous épargner tout ennui. Les soldats, ayant pris l'argent, exécutèrent la consigne et cette histoire s'est colportée parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Cet épisode-là ne se trouve mentionné que par saint Matthieu. Mais il n'est pas sans signification théologique lui aussi, nous y viendrons tout à l'heure. L'apparition aux 11 en Galilée dans saint Marc est racontée de la façon suivante, toujours sous forme d'une sorte de condensé, de résumé. Après avoir parlé de façon très concise de l'apparition aux disciples d'Emmaüs, saint Marc poursuit. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table, et il reprocha leur incrédulité et leur obstination à ne pas ajouter foi à ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront les serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. » Or, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux, et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Cette finale montre bien le caractère de résumé, donc très concis, de cette finale de saint Marc. Le récit est tel que pourrait donner l'impression que l'ascension a eu lieu le jour même de la résurrection, mais en fait, puisque nous devons lire ce récit en même temps que les textes de saint Luc notamment et les actes des apôtres, nous savons que en fait, les apparitions sont étalées sur une période de 40 jours, et seulement le 40e jour qu'a eu lieu l'ascension. Donc l'interprétation de ce texte demande à être faite en fonction d'autres passages de l'Écriture, comme c'est toujours le cas. Et il n'y a aucune raison de dire qu'il y avait deux traditions divergentes à ce sujet dans l'Église primitive. Dans saint Luc, l'apparition aux 11 est ainsi rapportée. Il fait suite immédiatement au récit des disciples d'Emmaüs qui viennent trouver les apôtres, n'est-ce pas, et raconter l'apparition dont ils ont été favorisés. Tandis qu'ils disaient cela, lui se tient au milieu d'eux et leur dit, « Paix à vous !» Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi ce trouble et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et demeuraient saisis d'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit, « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures et il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela, vous êtes témoins. Et voilà que moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc, demeurez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. » Puis il les emmena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Ils étaient constamment dans le temple à louer Dieu. Bon, je pense que ce récit est d'ailleurs la source du résumé que nous lisions tout à l'heure dans l'évangile de saint Marc, et que c'est précisément parce que le texte actuel de saint Marc n'a fait que résumer ce texte que nous avons cette impression, n'est-ce pas, de voir l'ascension soudée avec le jour même de la résurrection. Mais en fait, saint Luc justement procède très souvent par résumé, par condensé, et au début des Actes des Apôtres, il précise de façon plus exacte la chronologie. Au début des Actes, saint Luc, avec l'intention très, très explicite de compléter, de préciser ce qu'il dit dans son évangile, d'une façon plus, je dirais, plus historique, en suivant davantage le déroulement des faits, nous dit: c'est encore à eux, aux apôtres, qu'avec de nombreuses preuves, ils s'étaient présentés vivants après sa passion. Pendant 40 jours, il leur était apparu et les avait entretenus du royaume de Dieu. Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis, ce que, dit-il, vous avez entendu de ma bouche. Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Étant donc réunis, il interrogeait ainsi: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté d'Israël? Il leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le texte reprend bien les mêmes idées que la finale de l'évangile de saint Luc, mais en les développant et en ajoutant cette précision chronologique que les apparitions ont lieu pendant 40 jours et que c'est seulement à l'issue de ces 40 jours qu'a eu lieu cette ultime apparition où nous trouvons l'annonce de Saint-Esprit et la mission des apôtres. Alors, à ces mots, sous le regard, il s'éleva et une nuée le déroba à leurs yeux, et c'est le récit de l'ascension tel que vous connaissez dans les Actes. Enfin, dans Saint Jean, le récit des apparitions se situe en deux groupes de textes. Il y a d'abord une apparition aux 11, puis à Thomas, en Judée. C'est le texte que je ne vous le relis pas maintenant, puisque c'est le texte que nous lisions comme évangile à la liturgie d'aujourd'hui. Ce très beau texte qui mentionne une première apparition du Christ aux 11, le jour même de la résurrection, mais Thomas étant absent, donc en fait à 10 apôtres seulement. Puis, 8 jours après, le Christ se manifeste à nouveau, Thomas étant là. Et c'est l'apparition à Thomas. Nous avons lu l'ensemble de ce texte ce matin. Puis, à ces apparitions donc qui ont Jérusalem comme théâtre, saint Jean ajoute le récit d'une apparition qui, elle, a lieu en Judée, en Galilée. Donc il rejoint la tradition galiléenne de saint Matthieu et de saint Marc. Récit qui comporte, je ne vous le dis pas tout entier car il est très long et vous le connaissez bien aussi puisque nous le lisons si souvent comme évangile du dimanche à matine, le récit de la pêche miraculeuse et le récit de la réconciliation de Pierre. Je préfère appeler ce texte réconciliation de Pierre, quand le Christ interroge Pierre 3 fois, Pierre m'aimes-tu, ce qui manifestement a pour but d'introduire une sorte de rétractation très solennelle du reniement de Pierre, et le Christ réintroduit Pierre dans ses fonctions d'apôtre, de pasteur des brebis. Et puis un court passage qui termine ce récit sur l'avenir de Jean. Récit très énigmatique, n'est-ce pas, où le Seigneur dit simplement à Pierre: si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Ce qui n'est pas une annonce d'une immortalité terrestre de Jean, mais où le Seigneur réserve en quelque sorte très mystérieusement l'avenir de Jean. Il survivra à Pierre et il sera le dernier témoin de l'époque apostolique. Donc voici en gros quel est le schéma que nous retrouvons dans tous ces évangiles, je vous le rappelle. Apparition d'un ange aux saintes femmes, leur annonçant la résurrection au moment de la constatation du tombeau vide. Venue de Pierre et de Jean au tombeau, ils constatent également que le tombeau est vide. Puis, apparition de Jésus aux saintes femmes, et particulièrement à Madeleine. Apparition de Jésus aux disciples d'Emmaüs. Puis viennent les apparitions aux onze, qui se situent en partie en Judée, en partie en Galilée. Et le tout s'achevant par l'ascension du Seigneur, 40 jours après la résurrection. Donc voilà le cadre historique. Maintenant, quelques réflexions de caractère plus doctrinal à propos de ces textes. Une première remarque, c'est que ces apparitions se situent le jour même de la résurrection, qui a lieu le lendemain du sabbat, donc un dimanche. Et dans le récit de Saint-Luc, de Saint-Jean, qui nous rapporte l'apparition à Thomas, il est bien précisé que cette apparition a lieu 8 jours après. Cette insistance sur le huitième jour, sur le dimanche, n'est-ce pas, est le fondement même de l'institution du dimanche chrétien. Le dimanche apparaissant ainsi dès l'Église apostolique, dès le lendemain de la résurrection, comme le mémorial hebdomadaire de la résurrection. Et à travers toute l'Église ancienne, et jusqu'à nos jours, nous voyons ainsi chaque dimanche être une sorte de Pâques hebdomadaire. Chaque dimanche est véritablement le mémorial, la réactualisation de la résurrection du Christ. Dans l'Église primitive, très souvent, dans beaucoup de lieux, la célébration du dimanche commençait dans la nuit du samedi au dimanche, et la communauté chrétienne revivait ainsi dans ce passage vers la résurrection à travers cette prière nocturne, au fond tout le mystère de la rédemption. Et le grand samedi, nous avons encore cette liturgie de Saint-Basile précédée de toute lecture des Vêpres qui malheureusement était un peu déplacée, mais c'était inévitable à partir du moment où on a solennisé la nuit pascale avec les matines de la résurrection. Mais cette célébration de la liturgie de Saint-Basile le grand samedi correspond à ce noyau primitif, le jour de Pâques, mais qui avait sa réplique tous les dimanches, d'une célébration qui rappelait à la fois, par les lectures bibliques, les annonces de la mort et de la résurrection du Seigneur, cette relecture dans une perspective pascale, soit de toute l'Écriture, et débouchant par la célébration eucharistique dans la réactualisation véritablement de la résurrection au bénéfice de toute la communauté rassemblée. Et je me souviens de vous avoir dit dans une de ces causeries qui était consacrée au dimanche, que je ne sais plus quel auteur ne disait que les chrétiens dans l'Église primitive pouvaient en quelque sorte se définir comme ceux qui célèbrent le dimanche, n'est-ce pas? C'est la célébration dominicale de la résurrection qui est vraiment par la célébration eucharistique qui est véritablement la marque spécifique du chrétien. Un second trait à noter dans ces récits, dans tous ces récits de la résurrection, c'est cette priorité qui est accordée aux saintes femmes. Les saintes femmes découvrent avant les apôtres le tombeau vide, et c'est elles qui bénéficient aussi des premières apparitions du ressuscité. Et ce sont elles qui sont chargées d'annoncer aux apôtres à la fois la résurrection et que le Christ va leur apparaître, se manifester à eux en Galilée. Et je pense que ce fait, cette priorité accordée aux saintes femmes, a une portée ecclésiologique importante. Là encore, il y a une sorte de dialectique, n'est-ce pas, entre l'apparition aux saintes femmes et aux apôtres, qui est très significative. L'apparition aux apôtres a un sens très précis, n'est-ce pas, les apôtres vont être les piliers de l'Église comme institution. Nous verrons tout à l'heure ce que signifie le renvoi par le Christ, mais les apôtres sont vraiment ceux qui, en vertu de ce qu'on appellera l'ordination, la chirotonie, n'est-ce pas, vont rendre présent le Christ et toute son œuvre au sein de l'Église de façon objective. Mais l'apparition aux saintes femmes et le rôle des saintes femmes dans tous ces textes signifie précisément que le rôle du sacerdoce dans l'Église est absolument inséparable de celui des fidèles, de toute l'Église, en tant que composée de fidèles. Les saintes femmes, ici, au fond, représentent l'Église croyante, l'Église épouse, l'Église fidèle, qui n'est pas une simple Église enseignée qui recevrait passivement le message des apôtres, mais qui, d'une certaine manière, porte à sa manière ce message. Une formule que l'on retrouve que dans certains textes anciens, de l'époque patristique ou même médiévale encore en Occident, c'est que dans l'Église, les fidèles accomplissent par la foi et la dévotion, et le mot dévotion à cette époque-là a un sens très fort, c'est pas la dévotion au sens piétiste et individualiste, c'est l'engagement profond de l'être, n'est pas dans la recherche de la sainteté, dans l'intériorisation de tout le mystère de la divinisation du chrétien. Les fidèles accomplissent par la foi et la dévotion ce que le sacerdoce accomplit en vertu de son ministère. Et ceci est très important. Les prêtres, n'est-ce pas, et ceux qui ont une fonction de ministère dans l'Église, n'accomplissent leur fonction, je dirais, qu'en lien avec tout le peuple fidèle, et qui fait la même chose, mais à un autre niveau. Ce que le prêtre accomplit en fonction de son ministère, de l'ordination qui lui a été conférée, eh bien, les fidèles le font, ils coopèrent, mais sur la base de ce qu'ils ont intériorisé déjà du don de Dieu, ce qu'ils ont déjà acquis de sainteté dans le Christ. Par exemple, pour la célébration eucharistique, n'est-ce pas, qui est au cœur même de la fonction du sacerdoce dans l'Église, eh bien, il n'y aurait pas de célébration eucharistique s'il n'y avait pas un évêque ou un prêtre représentant qui célèbre, et à partir du moment où le prêtre a été ordonné authentiquement et est en communion avec l'Église, la célébration, je dirais, est authentique, est une célébration véritable, et elle ne peut l'être qu'à cette condition. Et il y a une garantie d'objectivité. L'authenticité de la célébration ne dépend pas de la sainteté personnelle du prêtre. Un prêtre pécheur, un prêtre qui peut avoir quantité de défauts, dès lors qu'il est en communion avec l'Église et qu'il est véritablement prêtre, célèbre validement, et la célébration rend présent réellement la mort et la résurrection du Christ. Mais les fidèles expriment leur participation par leur présence, par leur amen, par leur adhésion, par leur prière, n'est-ce pas, et leur adhésion à la prière du prêtre, l'amen qu'ils prononcent, et les fidèles coopèrent réellement, je dirais aussi, n'est-ce pas, à la célébration liturgique. Mais non plus sur la base d'un sacerdoce ordonné, mais sur la base de la foi, de la ferveur, de leur entrée personnelle dans le mystère du Christ. Mais les deux choses sont absolument liées, n'est-ce pas ? Il y a à la fois l'épiclèse du prêtre, n'est-ce pas, qui agit et qui est efficace en raison même de son ordination, mais l'épiclèse des fidèles, qui est unie à celle du prêtre, qui passe par les lèvres de celle du prêtre, mais qui est sanctionnée par l'amen des fidèles, et qui est, aussi efficace, bien que d'une autre manière, de la consécration des saints dons. Voyez-vous ? Les deux choses sont absolument liées, n'est-ce pas ? Mais à deux plans très différents, qu'il ne faut pas confondre. Décision conciliaire d'un concile ne sera vraiment une décision conciliaire mais prononcée par les évêques que si elle est portée par cette foi, que c'est la foi de tout le peuple chrétien qui est proclamée. Et c'est pour cela que nous ne pourrons jamais savoir si un concile a vraiment été un concile œcuménique que s'il est reçu ensuite, s'il est reconnu, si le peuple chrétien y reconnaît sa foi. Il y a une véritable symbiose, c'est-à-dire une véritable communion, compénétration entre l'activité des fidèles sur la base de ce qu'ils ont intériorisé du mystère du Christ, n'est-ce pas, et puis ce que le sacerdoce accomplit en vertu de son ministère, de son ordination. Donc ce sont deux modes irréductibles, tout à fait différents, n'est-ce pas, d'action, si je puis dire, mais qui ne peuvent pas être séparés. Et c'est pour cela que dans la tradition orthodoxe, il n'y a pas eu, comme on l'a parfois formulé de façon très maladroite en Occident, surtout depuis la fin du Moyen-Âge, le XVIe siècle, une église, je dirais, enseignée, une église enseignante, une église sanctifiée, une église sanctifiante. Bon, tout le monde est enseignant, tout le monde est sanctifiant, mais certains le font en vertu d'un ministère, et par conséquent, dans une fonction liturgique, dans une fonction de présidence liturgique, pour laquelle l'ordination est indispensable, et la communion avec l'épiscopat universel, et c'est la garantie objective indispensable de l'authenticité d'une célébration, de l'authenticité d'un enseignement, mais ceci est très étroitement liée à toute l'activité de foi, de ferveur, de vie de tout l'ensemble de l'Église. Et l'Église considérée comme corps, soit l'Église croyante, d'une certaine façon, peut même avoir une certaine priorité, en quelque sorte, au niveau de la vie, non pas au niveau de la proclamation et de l'enseignement autorisé, mais au niveau de la vie, sur l'enseignement, je dirais, officiel du sacerdoce. Et ce que nous sentons ici avec les saintes femmes. Donc je crois que ces textes-là ont une très grande portée ecclésiologique, que je ne fais ici qu'évoquer. Je crois que ce serait à creuser, d'ailleurs, ça n'a peut-être pas été encore fait tout à fait suffisamment, mais ça me paraît très, très important. Mais sans confondre du tout les deux rôles. Voyez-vous, il y a une conjonction étroite entre les deux, mais deux plans tout de même très, très différents. D'autre part, justement, la mission des apôtres, alors, est très, très, très bien précisée dans ces textes de la résurrection, notamment dans la finale de Saint Matthieu, n'est-ce pas ? Jésus leur dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a un lien extrêmement étroit, alors à ce plan, entre la mission du Christ lui-même, à qui tout pouvoir a été donné, et cette seigneurie du Christ va s'exercer alors sur le plan de l'institution, de l'Église comme institution de salut, par les apôtres. Et dans les autres évangiles, c'est également souligné très fortement. Je crois qu'il faudra revenir sur cette mission même des apôtres un peu plus loin. Pour ce qui est du rôle des anges dans le tombeau vide, je vous en ai parlé tout à l'heure suffisamment, enfin, je crois, l'importance donc de cette parole des anges illustrant la découverte du tombeau vide, qui ne prend son sens que par cette proclamation de la résurrection faite déjà par les anges. L'épisode des gardes posés près du tombeau et de cette supercherie imaginée par les chefs des Juifs, elle a une double signification. Comme je vous l'ai dit, on la trouve que dans Saint Matthieu qui écrit pour un auditoire juif, judéo-chrétien, et Saint Matthieu avait donc plus intérêt que les autres évangélistes à dissiper cette fausse explication du tombeau vide, de la disparition du corps du Christ par un vol commis par les apôtres, que les autres évangélistes, qui eux écrivaient leur évangile, rédigeaient leur évangile pour un milieu païen. Mais d'autre part, cet épisode souligne le refus des chefs d'Israël d'accepter la résurrection. Car devant l'annonce du tombeau vide aussi, les chefs d'Israël écartent a priori toute interprétation favorable à une résurrection authentique du Christ, ne veulent y voir qu'une supercherie des disciples et, avec une mauvaise foi évidente dans le texte, n'est-ce pas, écartent absolument toute acceptation, tout accueil, toute ouverture à l'annonce de la résurrection. Et à travers cela, c'est toute cette théologie que nous retrouvons dans saint Paul sur le refus d'Israël et le passage aux gentils que motive ce refus, le passage de l'Évangile aux nations païennes qui vont hériter des promesses faites à Israël. C'est en filigrane, bien sûr, mais cet épisode est très significatif dans la mesure même où il souligne ce refus des chefs d'Israël d'accueillir la résurrection et de recourir pour cela à une supercherie assez grossière pour expliquer le tombeau vide et au fond, fondé une sorte d'apologétique juive contre l'annonce de la résurrection. Et cette perspective universaliste qui est ainsi évoquée, n'est-ce pas, ce passage d'un messie, enfin, d'un salut qui serait limité à Israël, à une perspective vraiment universaliste, alors est affirmée d'une façon, là encore, assez voilée, mais déjà beaucoup plus explicite, dans le fait que les apparitions ont lieu en Galilée. La Galilée, à l'époque évangélique, est une terre où juifs et païens sont largement mélangés, et dès le début de l'évangile de Matthieu, nous avions une allusion à ce caractère universaliste, universel, que la prédication du Christ revêtait du fait que, dès ses débuts, elle avait lieu en Galilée. C'est dans Saint Matthieu, chapitre 4, verset 18, enfin à partir du verset 12 plutôt, « Ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée, et, laissant Nazareth, il vint s'établir à Capharnaüm, au bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephtali, pour que s'accomplit l'oracle d'Isaïe le prophète. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, route de la mer, pays de Transjordan, Galilée des nations. Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière, sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort, une lumière s'est levée. » Et toute la première partie du ministère du Christ, durant sa vie publique, va avoir lieu en Galilée, et cette localisation galiléenne trouve ici, si je puis dire, sa clé. La Galilée, beaucoup plus que la Judée, était une terre où il y avait une présence païenne, et le fait que le Christ ait annoncé le royaume dans cette Galilée ainsi ouverte sur les nations païennes donnait d'emblée, dès le début de l'Évangile, une orientation universaliste à la prédication du Christ. Et le fait que ce soit de nouveau la Galilée qui soit le théâtre des apparitions aux onze, déjà laisse pressentir que la mission des onze va dépasser les limites de la Judée, va dépasser les limites du peuple juif, pour s'orienter vers toutes les nations païennes. Ce n'est ici, une fois encore, dit que d'une façon voilée, mais c'est le sens profond de cette localisation galiléenne des apparitions. Venons-en à la mission conférée aux apôtres par le Christ ressuscité. Cette mission se retrouve dans les différents évangiles, mais c'est peut-être dans l'évangile de Saint Jean qu'elle est le plus nettement formulée, et avec les connotations théologiques les plus riches. Voyons le chapitre 20 de Saint Jean, revenons-y. C'est lors de l'apparition donc de Jésus aux onze à Jérusalem. Le Christ donc apparaît aux apôtres, toutes portes closes, et les pères ont souvent souligné d'ailleurs que cette apparition porte close a une signification, montre que le caractère nouveau, transfiguré, c'est-à-dire du corps du Christ ressuscité. Nous y viendrons tout à l'heure. Et Jésus dit aux apôtres, « Paix à vous !» Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et le Christ, ensuite, dit aux apôtres ceci, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » La formule même employée par le Christ est très très significative, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Le Christ est envoyé par le Père pour accomplir l'œuvre du salut qui a sa racine, dont l'initiative en quelque sorte, est dans le Père. Mais le Christ est dans le Christ, le Père est présent et c'est d'une certaine façon l'œuvre du Père que le Christ accomplit, comme il le dit souvent dans l'évangile de Saint Jean. Eh bien, les apôtres, de par leur ministère, de par leur fonction, vont rendre présent véritablement l'œuvre du Christ et à travers le Christ l'œuvre du Père, toute l'économie du salut, n'est-ce pas, parmi les hommes. Donc, ce terme d'envoyer a une signification extrêmement prégnante, extrêmement dense. Ce n'est pas un simple envoi en mission au sens, je dirais, un peu dévalué que le mot pourrait avoir en français. Cet envoi des apôtres par le Christ signifie une véritable investiture, c'est-à-dire une fonction de représentation, mais au sens d'une véritable présence sacramentelle. À travers les apôtres, c'est vraiment toute l'œuvre de celle du Christ qui va être rendue présente. Il y a une continuité étroite, n'est-ce pas, entre le lien qu'il y a entre le Christ et le Père, et entre les apôtres et le Christ. Donc c'est vraiment toute l'économie sacramentelle de l'Église, l'Église étant le sacrement par excellence, bah, tout le ministère apostolique contenant en lui toute l'œuvre sacramentelle par laquelle le mystère même de la divination des hommes par la mort, la résurrection du Christ s'accomplit, c'est cela qui va être rendu présent par cet envoi, par cette mission des apôtres, qui, sur ce plan, va se prolonger dans l'œuvre de l'épiscopat. Les évêques ne sont pas successeurs des apôtres strictement en tant qu'apôtres, puisque les apôtres avaient une mission de fondateur d'église et une mission universelle. Les évêques sont plus des fondateurs d'église au sens propre et ont une mission locale chaque évêque représente le Christ, rend présent l'œuvre du Christ dans son église locale, n'est-ce pas? Et sur ce plan-là, il y a une grosse différence considérable entre la mission des apôtres et celle des évêques. Mais d'autre part, les évêques succèdent véritablement aux apôtres dans cette fonction de rendre présent sacramentellement, n'est-ce pas, non pas sur la base de leur sainteté personnelle, mais sur celle de l'ordination reçue, de rendre présent toute l'œuvre rédemptrice du Christ au bénéfice des fidèles. Donc c'est là le sens de cette mission des apôtres. Et le Christ poursuit, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Ce texte ne vise pas simplement le sacrement de pénitence, le sacrement de la confession, mais je dirais même avant tout le baptême. C'est par le baptême que les péchés, fondamentalement, sont remis aux hommes. Donc c'est cette sanctification de l'humanité par le baptême qui est d'abord évoquée ici. Sans exclure aussi, bien sûr, ce qu'on a appelé le pouvoir des clés, n'est-ce pas, le pouvoir de pardonner les péchés commis après le baptême. Donc il y a là aussi le fondement de l'institution pénitentielle dans l'Église. Mais ce qui est envisagé premièrement, c'est cette remise des péchés qui résume, au fond, toute l'œuvre de sanctification des hommes. Il ne faut pas la concevoir de façon purement négative, mais quand nous donnons la communion, la Sainte Eucharistie, nous disons aussi, pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Les deux sont absolument liés. Par conséquent, il ne faut pas restreindre ce texte simplement au pouvoir d'absoudre les fautes commises après le baptême, mais il vise d'abord, globalement, n'est-ce pas, toute cette puissance qui est donnée aux apôtres et qui est la puissance même du Christ de remettre les péchés au sens le plus radical du mot, c'est-à-dire de réconcilier les hommes avec Dieu, de leur communiquer la vie divine, de faire pénétrer dans le monde cette forme de divinisation qui est l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu pour cela. Dans ce texte, évidemment, il ne s'agit que, d'une sorte d'annonce, de préfiguration du don de l'Esprit Saint aux apôtres qui sera accompli pleinement au moment de la Pentecôte. Il n'y a pas de Pentecôte, n'est-ce pas ? Ce texte de Saint Jean a été interprété par les pères, en général, comme une sorte d'annonce, de préfiguration de ce qui va s'accomplir définitivement à la Pentecôte. C'est en deux temps, si je puis dire, mais le don de l'Esprit Saint ici est plutôt annoncé que déjà réalisé. Il est annoncé, préfiguré, il va s'accomplir pleinement à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, ce sont les apôtres qui reçoivent l'Esprit Saint. Nous allons parler l'an dernier, n'est-ce pas, il y a toute une controverse entre les iconographes pour savoir si dans l'icône de la Pentecôte, on doit ou non représenter la Mère de Dieu. Et personnellement, je pense assez, avec Leonid Uspensky, que la meilleure représentation est celle qui ne fait figurer dans l'icône de la Pentecôte que les apôtres, parce qu'à la Pentecôte, l'Esprit Saint est donné directement aux apôtres pour qu'ils puissent ensuite communiquer l'Esprit Saint à toute l'Église. Et à l'Église comme telle, à l'Église fidèle, n'est-ce pas, à l'ensemble des fidèles, c'est par les apôtres, par le corps apostolique et par l'épiscopat, donc, que l'Esprit Saint est communiqué. Alors les autres les textes des autres évangélistes auxquels je faisais allusion tout à l'heure, soit, ne font au fond que reprendre une forme beaucoup plus concise cet envoi en mission que nous trouvons ici. Mais il est intéressant tout de même dans l'évangile de saint Matthieu de voir comment en finale de l'évangile cette présence de toute l'économie rédemptrice et du Christ lui-même par les apôtres est formulée. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Par le corps apostolique, dans le corps apostolique, dans le corps épiscopal, et dans les prêtres qui ne font que monnayer, si je puis dire, étant, n'est-ce pas, l'action du corps épiscopal, c'est une véritable présence objective du Christ qui est assurée. Bon, le Christ est présent dans son Église sous deux modes, n'est-ce pas, d'une façon objective par le corps épiscopal, sourd des sacrements, de la grâce des sacrements, et puis d'une façon alors intériorisée par la grâce divine, les énergies divines que possède chaque fidèle en vertu de son baptême et des sacrements reçus. Mais de cette double manière, mais fondée avant tout sur la mission donnée aux apôtres, le Christ est vraiment présent dans l'Église jusqu'à la fin du monde. Il ne s'agit pas là seulement, bien entendu, de l'Eucharistie. L'Eucharistie en est un aspect, n'est-ce pas, mais beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus générale, c'est partout le mystère de l'Église que le Christ est véritablement présent dans le monde jusqu'à la fin des temps. Enfin, il reste à dire quelques mots sur d'une remarque faite par les évangélistes que je signalais tout à l'heure en passant. Cette forme nouvelle, n'est-ce pas, que le Christ semble avoir revêtue lors des apparitions qui fait qu'il n'est pas reconnu immédiatement. Aussi bien Madeleine ne le reconnaît pas aussitôt, puisqu'elle le prend pour le jardinier, que les disciples d'Emmaüs, qui peuvent faire route avec le Christ et qui ne le reconnaissent pas avant la fraction du pain. L'intention de ce trait est certainement de montrer que la vie que le Christ a repris n'est pas simplement le fait d'une réanimation de son corps. Le Christ n'a pas la résurrection, ne reprend pas simplement la vie qu'il avait avant la croix, avant la passion, une vie selon la chair, c'est-à-dire une vie dans un corps passible, un corps mortel, soumis à toutes les conséquences du péché. En passant à travers la mort et la résurrection, le Christ accède à une vie nouvelle, dont la chair et le sang ne sont plus le principe, mais l'Esprit Saint qui remplit son humanité ressuscitée et glorifiée. Même si cette glorification est tamisée, si je puis dire, parce que si le Christ est apparu dans toute sa splendeur de ressuscité aux apôtres, ils ont été éblouis, n'est-ce pas, un œil humain ne pouvait pas le voir, donc le Christ a dû, par une sorte de condescendance, d'économie, s'adapter au regard des apôtres, mais cette économie se traduit justement par cet aspect étranger, en quelque sorte, que revêt le Christ. Et même lorsque le Christ apparaît aux apôtres, finalement, ce n'est d'une certaine manière qu'à travers la foi qu'ils peuvent le reconnaître. Ils ne connaissent plus le Christ, on ne peut plus connaître le Christ selon la chair, et c'est pour ça que le Christ dira à Madeleine, n'est-ce pas, ne me touche pas, n'est-ce pas, ça. Mais c'est la foi seule qui peut atteindre le Christ ressuscité. Et vouloir atteindre le Christ ressuscité par des voies encore humaines, simplement à partir de notre sensibilité, de notre toucher humain, est un leurre, finalement. Le Christ ressuscité n'est perceptible, ne peut vraiment être atteint dans sa réalité que par la foi. Et c'est seulement à partir de cet acte de foi, immédiat chez les saintes femmes, plus tardif, avec bien des hésitations chez les apôtres, que le Christ ressuscité peut vraiment être rejoint, peut vraiment être atteint. Et Thomas lui-même, n'est-ce pas, par le toucher, en palpant le corps ressuscité du Christ, acquiert par ce moyen la certitude que le Christ est bien ressuscité. Mais ce n'est que par un acte de foi qui dépasse de beaucoup ce simple toucher qu'il peut découvrir dans le Christ justement sa divinité. Enfin, il peut découvrir le Seigneur, son Seigneur et son Dieu dans le Christ. Donc Thomas lui-même, n'est-ce pas, est conduit, je dirais un peu comme nous à travers les sacrements. Bon, nous touchons par les sacrements une réalité, mais nous percevons la réalité profonde que recouvrent les sacrements, la présence du Christ dans les sacrements, que par la foi. Eh bien, déjà, après la résurrection, lorsque aussi bien Madeleine que les disciples d'Emmaüs rencontrent le Christ, ce n'est finalement que lorsque la foi a été éveillée dans leur cœur, qu'ils ont consenti à ce mouvement de foi, qu'ils peuvent reconnaître le Christ. Et c'est ce caractère aussi de transfiguré, enfin du Christ ressuscité, qui est évoqué par le fait que, lors de l'apparition aux 11 dans Saint Jean, ils pénètrent dans la salle où ils étaient, toute porte close. Et les pères ont souvent rapproché cette entrée du Christ dans le cénacle, toute porte close, de sa naissance virginale. Mais lors de la naissance virginale, c'était une sorte comme la transfiguration, n'est-ce pas, de levée temporaire de la condition passible et mortelle du Christ, qui était déjà, n'est-ce pas, radicalement divinisé dans son humanité, mais à la résurrection, alors cette divinisation du corps du Christ se manifeste pleinement. Seulement, ce qui est important, c'est qu'en même temps que les évangiles, voyez-vous, par ce biais de la difficulté qu'ont les témoins à reconnaître le Christ, par le biais de cet aspect inusité qu'il revêt, suggère le caractère nouveau, transfiguré de son humanité ressuscitée. En même temps, ils insistent très très fortement sur sa corporéité. Les apôtres peuvent véritablement palper, n'est-ce pas, ce corps du Christ. Et il y a là une insistance très très, très forte, notamment dans Saint Jean, insistant sur la réalité de la chair ressuscitée du Christ. Et Saint Jean y insiste fortement dans le récit de l'apparition à Thomas et aux 11, peut-être parce que à l'époque où il écrivait les évangiles, déjà des courants gnostiques, ça avait paru dans l'Église, des courants d'ascètes qui tendaient à dissoudre la réalité du corps du Christ. Moi, le Christ ressuscité leur apparaissait un peu un Christ éthéré, n'est-ce pas, avec tout l'arrière-plan d'une certaine condamnation de la matière, de la chair comme telle. Et Saint Jean veut bien souligner très très fortement que le Christ est vraiment ressuscité corporellement avec une chair qui est palpable, qui est, comme diront les pères, circonscriptible. On retrouvera le même problème avec l'iconoclasme, l'iconoclasme dont les racines se retrouvent déjà dès le 3e siècle chez Origène qui, pour qui le corps du Christ ressuscité n'était plus un corps qui avait des limites précises, circonscrites, donc on ne pouvait pas représenter le corps du Christ ressuscité. Et au contraire, lors des grandes controverses iconoclastes, on insistera très très fortement sur le fait que le corps du Christ ressuscité reste véritablement un corps humain qui a gardé sa forme, qui a gardé ses limites de corps humain et qui peut par conséquent encore être représenté. Et toute l'iconographie chrétienne, n'est-ce pas, est justement fondée sur ces deux choses. D'une part, c'est un corps ressuscité, ce n'est pas un corps qui est représenté sous une forme naturelle, naturaliste, mais en même temps, c'est un corps qui est tout de même, qui a vraiment une forme humaine, qui peut être représentée comme un corps humain. D'où toute la réfutation de l'iconoclasme par Saint Jean Damascène ou Saint Théodore Studite. L'iconoclasme, les racines origéniennes. Et on sent que dans l'évangile de Saint Jean, notamment, eh bien, il a déjà devant lui, n'est-ce pas, certaines hérésies en germe qui déjà annonce la gnose du 3e siècle et certaines tendances aussi d'Origène qui dissoudraient en quelque sorte le corps du Christ ressuscité. Et alors ce corps, d'un côté ressuscité, transfiguré, ce n'est plus une chair animée par une chair, par un sang terrestre, enfin, c'est vraiment une chair qui est vivifiée par l'Esprit, dont l'Esprit Saint est le principe d'animation, donc qui accède à une vie qui est tout à fait au-delà de la vie charnelle, de la vie purement terrestre du Christ avant la résurrection, mais en même temps, c'est bien un corps humain, un corps terrestre, qui est ressuscité. Et je crois qu'il faut bien maintenir les deux choses, c'est donc au cœur même du message de la résurrection. Et nous voyons là comment le 7e concile œcuménique et le triomphe de l'orthodoxie sur l'iconoclasme est vraiment, je dirais, le sceau, n'est-ce pas, de tous les grands conciles et qui ont petit à petit formulé toute cette doctrine de l'incarnation et du salut par l'économie du Christ, en soulignant ces deux aspects. On pourrait dire encore, bien sûr, quantité de choses sur ces textes qui sont si beaux, n'est-ce pas, il vaut mieux se taire et les laisser résonner dans son cœur simplement. Enfin, j'ai voulu vous suggérer quelques aspects de la théologie qui le reste au centre. Rendez-vous des
des remarques et des questions à poser.
Je vais demander oui. deux questions. Comment se fait-il que Madeleine, croyant s'adresser au jardinier, lui dit Seigneur, est-ce qu'elle ne reconnaît pas un peu le Christ inconsciemment? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous pensez du suaire de Turin?
Oui. Alors pour la première question, n'est-ce pas le fait que Madeleine s'adresse au Christ en appelant Seigneur, évidemment, dans les évangiles, le mot Kyrios, n'est-ce pas, est toujours un petit peu prégnant de la reconnaissance de la seigneurie du Christ. Il y a une équivoque voulue ici. Je crois que pour Saint Jean, Madeleine s'adresse au Christ en l'appelant en fond Monsieur, qui se dit aussi Kyrie, n'est-ce pas, Kyrios. C'est le même mot. Mais Saint Jean déjà joue un peu sur le texte, sur le terme, et justement laisse pressentir la reconnaissance qui va avoir lieu de la seigneurie du Christ. Mais historiquement, je pense que Madeleine, d'abord, l'a simplement pris effectivement pour le jardinier, mais déjà, Saint Jean veut suggérer qu'il y a quelque chose au-delà. C'est très subtil, mais ça c'est fréquent dans Saint Jean, n'est-ce pas ? Saint Jean joue assez facilement sur deux niveaux différents, un premier niveau du texte qui est sa simple réalité historique, et puis ensuite alors le niveau religieux qui va se révéler au-delà, mais à partir du fait historique lui-même. Pour ce qui est du suaire de Turin, je n'en ai pas parlé ici, je n'ai pas voulu entrer dans le détail de l'interprétation des textes qui décrivent l'ensevelissement du Christ ou les linges découverts au tombeau après la résurrection. Les textes, au premier abord, si on se réfère aux traductions courantes, sembleraient contredire l'authenticité du suaire de Turin quand il parle de bandelette. Et le suaire de Turin, évidemment, il ne s'agit pas de bandelette, il s'agit d'un grand linge qui enveloppait le Christ, étant replié, le corps du Christ se trouvant à l'intérieur de ce linge replié. Cependant, des exégètes récents, notamment le père André Feuillet, qui est un exégète catholique très âgé maintenant, mais très compétent, a étudié de très près les textes, d'une façon peut-être un petit peu concordiste, mais pense pouvoir démontrer que les textes des évangiles ne sont pas assez précis pour qu'on puisse nier à partir de ces textes l'authenticité du suaire, et qu'au contraire, on peut les interpréter dans un sens favorable. Les bandelettes, notamment, ayant servi à serrer le suaire à la fois autour du cou et des pieds du Christ. Donc, une interprétation du texte est tout à fait possible, favorable à l'authenticité du suaire de Turin. Seulement, les apôtres emploient des termes assez génériques qu'on ne peut pas beaucoup presser. Donc, on ne peut pas bâtir une preuve, si vous voulez, sur les textes évangéliques eux-mêmes. Mais d'autre part, alors, l'examen du suaire de Turin semble très favorable, toutes les recherches qui ont été faites depuis quelques années semblent très favorables à l'authenticité. Puisqu'on a retrouvé dans ce suaire notamment des pollens qui proviennent de Palestine, qui proviennent aussi de la région d'Édesse, donc ce qui montrerait que le suaire est bien d'origine palestinienne. Le tissu serait pratiquement de l'époque du Christ aussi, d'après les analyses qui ont été faites. Donc on a un ensemble de preuves convergentes qui semblent bien prouver l'authenticité. D'autant plus qu'il n'y a aucun moyen d'expliquer naturellement l'empreinte qui se trouve sur le suaire. Il n'y a aucune trace de pigment, aucune trace de peinture. C'est une sorte de, je dirais presque, de brûlure superficielle du tissu. Il n'y a aucune imprégnation du tissu par un pigment, par une couleur artificielle. Donc c'est certainement pas une peinture, une tardive. Pas de très près, bien sûr, on ne peut pas le voir de très, très très près. Mais donc, ce n'est pas la simple vue d'une suaire qui peut prouver quoi que ce soit, mais des études, alors très employant des procédés techniques très poussés, ont été faites ces dernières années, et il y a une convergence de preuves assez impressionnante.
La vue elle-même est-elle impressionnante?
Ah oui, sans aucun doute. Seulement, vous savez, le suaire n'est pas très lisible tout de même. Il est impressionnant parce que, justement, il y a de fortes chances que ce soit une relique authentique. Mais le suaire étant négatif, et c'est au fond, n'est-ce pas? Et c'est seulement le négatif photographique qui nous donne une vue positive du corps du Christ. Par conséquent, les photos en négatif sont beaucoup plus impressionnantes que le suaire lui-même, si vous voulez, au point de vue de ce qu'on peut lire, ce qu'on peut reconnaître sur lui. Et une interprétation a été donnée, n'est-ce pas, sur l'histoire de ce suaire. Il est fort possible que le suaire de Turin... et qui signifie littéralement un linge qui est plié en quatre et en deux. Or, si on replie effectivement le sphère de Turin d'abord en deux et en quatre, n'est-ce pas, effectivement, on dégage une partie de tissu en longueur, un rectangle allongé, au milieu duquel se trouve le visage du Christ. Or, toutes les icônes anciennes du visage du Christ, du Mandylion, ont cet aspect. Contrairement à ce qui semblerait normal, ce ne sont pas des icônes qui sont plus hautes que l'arbre sur lequel le visage les tacherait, mais au contraire, le tissu est représenté en longueur, n'est-ce pas, plus large que haut, et le visage du Christ au milieu. C'est exactement l'aspect que présenterait le sphère ainsi replié en deux et en quatre, n'est-ce pas? Il est fort possible que le sphère ait été ainsi replié et exposé à une sorte de reliquaire ouvert ou à claire-voie, et que par conséquent ce soit à l'origine du Mandylion tel qu'il était représenté. Puis on a fait des icônes représentant ainsi la face du Christ réinterprétée iconographiquement à partir de cela, qui ce serait l'origine de toutes les icônes donc du Mandylion. Ce n'est pas impossible du tout. Il y avait évidemment, ce qui complique un peu les choses, c'est qu'il y avait à Constantinople, semble-t-il au XIe siècle, deux reliques distinctes, d'une part le sphère et d'autre part le Mandylion. Seulement rien ne prouve que ce Mandylion vénéré comme relique n'était pas une reproduction, le cas ne serait pas sans exemple, une reproduction elle-même du sphère réinterprété comme icône. Et puis alors il y a à partir de 1204, du pillage de Constantinople par les croisés latins, une assez longue période dans laquelle le sphère disparaît, et il reparaît ensuite au XIVe siècle en Occident, sans qu'on sache on n'a aucune donnée précise sur son itinéraire de Constantinople en Occident. C'est cela qui a fait supposer à beaucoup de critiques, se basant seulement sur les témoignages externes, que le sphère était une fabrication médiévale. Mais là, toutes les études du sphère lui-même, n'est-ce pas, toute la critique interne, je veux dire, du sphère, au contraire, conclut en faveur de son authenticité et de sa provenance du milieu palestinien du 1er siècle. Donc il y a de très forts arguments en faveur de son authenticité. Mais ça n'est pas absolument, ça n'est pas un article de foi, bien sûr.
J'ai une question, mais elle est un peu difficile à exprimer. Vous avez, en parlant des sacrements, vous avez dit qu'elle se réalise par le prêtre et par la prière des croyants présents. Et puis, on a parlé aussi de ces paroles « Comme le Père m'envoie, je vous envoie ». Et il y a tout de même aussi là d'autres éléments. Le Père, le Christ est apparu à Marie-Madeleine, n'est-ce pas? Et c'est à elle qu'elle a dit les paroles « Je vais à mon Père et votre Père
oui. ».
Donc cette parenté ne concerne pas seulement les apôtres. La succession apostolique a été donnée aux apôtres.
Oui, oui.
Mais la chambre haute, où à la Pentecôte est venu le Saint-Esprit, là, il y avait beaucoup de personnes, pas seulement les apôtres. Est-ce que dans cette circonstance, il n'y a pas un petit reflet de ces deux éléments, comme les sacrements sont par le prêtre et par les croyants,
oui.
Et ça pourrait peut-être aussi rendre un peu indulgent sur la présence de la Mère de Dieu,
Il y aurait là une étude à faire. Il y aurait là une étude à faire que je n'ai pas faite parce qu'elle était, elle est immense. Ça serait un travail très très considérable. Mais c'est de voir comment les pères ont, dans l'ensemble, interprété l'épisode de la Pentecôte et dans quelle mesure les pères ont vu descendre du Saint-Esprit seulement sur les apôtres ou sur l'ensemble de la communauté présente. Et là, je ne sais pas. Il faudrait pouvoir faire une recherche très très large chez les pères pour voir s'il y a une unanimité ou non chez eux à ce sujet. Mais vous avez raison, la question se pose. La question peut se poser.
Autrement, on peut approcher ça par étude historique, mais dans ces choses, l'intuition sur, le caractère de l'Église elle-même est peut-être le point de départ.
Oui, enfin, pour arriver à une certaine certitude, il faudrait voir s'il y a une unanimité chez les pères, dans un sens ou dans l'autre, alors c'est important, il faut en tenir compte. Mais je ne peux pas affirmer qu'il y a unanimité chez les pères pour dire que le Saint-Esprit est descendu visiblement seulement sur les 12. Oui. Mais je pense qu'il y a quand même une tradition dans ce sens et qui me paraît assez forte. Oui. Parce que ce sont les apôtres ensuite, tout de même, n'est-ce pas, qui ayant reçu l'Esprit Saint, ont parlé, on sent que dans l'épisode de la Pentecôte, les 12 ont un rôle tout à fait privilégié.
Oui.
Oui. Il faut revoir le texte lui-même. Ils se trouvaient ensemble dans un même lieu. Il s'agit là de l'ensemble, n'est-ce pas, certainement de la communauté primitive.
150 personnes, au commencement des arbres.
Oui. Quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un vent violent qui remplit la maison, il se tenait. Il vit apparaître des langues qu'on y dit de feu. Elles se partageaient et s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur ordonnait de s'exprimer. Et ensuite, n'est-ce pas, ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens?
Oui.
Donc, les galiléens, ce sont les apôtres, n'est-ce pas? Oui. Alors, le texte n'est pas explicite. Le texte n'est pas explicite, mais il y a cet indice qui donne l'impression que ce sont les 12, quand même, qui ensuite parlent en langue, n'est-ce pas? Et ce sont ceux qui parlent en langue qui ont reçu les langues de feu. Oui. Donc, il faudrait, je crois, pouvoir faire une enquête tout de même dans l'iconographie pour voir si la représentation des apôtres seuls est la représentation courante dans l'Église ancienne, et d'autre part, voir chez les pères aussi s'ils sont à peu près unanimes à considérer que seuls les 12 ont reçu ces langues de feu. Mais là, je ne peux pas l'affirmer.
Mon père, est-ce que vous pourriez préciser enfin la différence qu'il y a entre la Pentecôte, ce qu'on appelle la Pentecôte joannique et la Pentecôte qu'on vient de citer ?
Oui, personnellement, je pense, et là, il me semble que c'est ce que dit saint Jean Chrysostome, enfin, je l'ai trouvé chez des pères en tout cas, qui n'y voient pas deux effusions distinctes de l'Esprit, mais une sorte d'annonce, voyez-vous, simplement d'annonce et de préfiguration de l'effusion de l'Esprit sur les apôtres à la Pentecôte. Maintenant, dans l'hypothèse où ce sont les apôtres seuls qui ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Des exégètes catholiques contemporains, eux, pensent au contraire que dans la Pentecôte joannique, lors de l'apparition, n'est-ce pas, aussitôt après la résurrection, le Saint-Esprit a été donné aux apôtres pour le ministère, et de façon plénière et définitive, et qu'à la Pentecôte, l'Esprit-Saint est donné sur toute la communauté. Alors, pour exprimer, pour fonder l'Église comme telle, mais l'Église, non pas simplement comme ministère, mais aussi comme possession de l'Esprit-Saint par tout le corps de l'Église. Mais cette interprétation-là me paraît davantage celle... moi, je l'ai trouvée plutôt chez des commentateurs catholiques contemporains, notamment le père Lécuyer, qui a fait des études à la fois bibliques et patristiques sur le sacerdoce, et je ne me souviens pas de textes patristiques l'interprétant dans ce sens. Les pères ont plutôt le souci, n'est-ce pas, de maintenir l'importance de la Pentecôte comme événement unique, et de voir donc dans ce don de l'Esprit par le Christ ressuscité, simplement à la fois une intention théologique pour montrer que c'est le Christ ressuscité qui envoie l'Esprit-Saint, mais qui l'envoie ici, d'une façon, je dirais, incollective et en figure, une sorte de prémisse, si vous voulez, de figure, de ce qui va être accompli en plénitude au jour de la Pentecôte. Et non pas deux envois formellement distincts. Mais simple du point de vue exégétique, l'opinion de ces auteurs qui y voient donc d'abord la fondation du mystère apostolique par le don de l'Esprit Saint aux seuls apôtres le jour de la résurrection, puis le don de l'Esprit Saint à toute l'Église de la Pentecôte est possible aussi. Il n'est pas un contraire, directement contraire au texte. Je crois que Mgr Cassia avait fait toute une étude sur la Pentecôte johannique, mais je ne sais pas quelle était son interprétation. Et dans quelle mesure il avait fait une enquête patristique pour voir quelle était la pensée des pères.
Si je me souviens bien de la thèse de Mgr Cassia, pour lui, c'est la Pentecôte johannique qui correspondait à la Pentecôte telle qu'elle est apportée dans les Actes.
Oui.
Il dit que la durée était de toute façon symbolique, il y aurait les 40 jours, 50 jours,
mm-hmm. Oui, c'est ça, oui.
Moi, je sais que ça a été discuté.
Oui.